Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao ceux et bonne année, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble, la toute première de l'année 2023. Et pour l'occasion, on va se faire une grosse session de rattrapage avec tout plein de titres des éditions Glénat. On aura donc la chronique du volume 3 de Windfighters, la chronique du volume 4 de Dear Call, la chronique du volume 8 de Parasite, la réédition 2020, on aura la chronique du volume 41 de Berserk, la présentation du manga Duranki, la présentation de Dragon Ball SD et la présentation de Dragon Ball Super. Parmi tout ça, on aura un point plutôt pas mal sur les sorties manga de la semaine. Il y en a plusieurs qui vont être disponibles cette semaine. Et voilà, du coup, on va pouvoir commencer tout de suite avec la première chanson de l'émission. C'est Can You Walk in State de Ten Feet. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 3 de Windfighters.
Gone before I arise into what time goes on the way. You brought me, I wanna show the truth. I'll trust the wrong rule, but you have changed your mind. Yo, listen, why you criticize in your song? You can't lose the way you do. You don't have place to be can't read the degree in my heart. I try to talk about what to go into, but today this is the cover to place where I was before. What did you get the energy? Did you choose that prejudice? Where do you think of the reason that you see? It's your tattoo, yeah. I've gone before I arrive here. To what time grows from the way you brought me. I wanna show the truth. I'll trust the wrong rule, but you have changed your mind. Yo, listen, why you? Please decide in your song. You can't lose the place you do. You don't have place to be. Can't read the degree in my heart, did you? Trying to fight with your pen. Can I say that fuck that dude you keep on? When's the day you look back your way? I'll rewrite your new book in space. I try to talk about what to go into back to me. You think you're gone to place where I was before. When did you get the energy? Did you choose that prejudice? When do you think of the reason that you see? It's your tattoo real. Do you think you could go back to place where you were before? What did you get the years? It's that you choose that pressure, yeah. Do you think you go back to place where you were before? What did you get the years? It's that you choose that pressure, yeah. I've gone before I arise here. To what time goes from the way you want me. I wanna show the truth. I'll trust the wrong rule, but you have changed your mind. Yo, listen, why you redesign in your song? You can't lose the way you do. You don't have place to be. Can't read the degree in my heart, did you? I try to talk about what to go into back to me. You think you come back to place where you were before. When did you get the energy? Did you choose that prejudice? Where do you think of the reason that you see? It's your tattoo real. If you could go back to place where you were before, what did you get the years? It's that you choose that prejudice, yeah. Do you think you could go back to place where you were before, what did you get the years? It's that you choose that prejudice, yeah.
Donc c'était Ten Feet avec la chanson Can You Walk in State. On passe maintenant à la chronique du volume 3 de Windfighters. Donc je rappelle que c'est un shonen français de genre action-aventure qui a été écrit par Christophe Cointeau. La série est parue aux éditions Glénat et elle est toujours en cours avec pour le moment 3 tomes de sortie. Ce volume 3 est paru le 2 février 2022 au prix de 6,90€. Au résumé du tome, face aux troupes du régime, Elio est bien décidé à faire une petite mise au point. Malheureusement, le major Brick Mac se révèle d'une autre trempe que le commissaire Bud. L'aventurier au souffle court parviendra-t-il à vaincre un adversaire capable de le parer d'un simple pied? Donc cela fait plus d'un an que le tome 2 a été publié et il était temps que celui-ci sorte. On comprend bien évidemment le délai puisque le mangaka est tout seul à travailler sur ce projet et qu'il n'a peut-être pas des assistants comme au Japon. Heureusement qu'on a droit à un petit récapitulatif des événements en début de tome pour se remettre dans le bain, surtout que là on reprend sur de l'action, pas le temps de lésiner. Dans ce tome, on va suivre trois points de vue. Tout d'abord, on va suivre celui d'Elio qui est clairement le plus costaud. Il est directement pris dans un combat contre le major Brick Mac qui veille à ce que le chantier ne soit pas perturbé et livré dans le temps imparti. Très rapidement, on est lancé dans un combat assez violent contre ce major qui est bien plus grand que notre jeune héros Elio. C'est vraiment fluide et prenant comme action et comme combat. Notre protagoniste est une tête brûlée, donc il va tout faire pour atteindre ses objectifs et gagner malgré son handicap. C'est un personnage qui est vraiment inspirant dans le sens où il donne tout pour défendre ses idées et ses valeurs. Mais ce fameux major va lui donner du fil à retordre. Elio pourra tout de même compter sur l'arrivée d'un personnage pour le soutenir dans cet affrontement. Il aura du mal à renverser la tendance, mais il sera très utile pour lui faire gagner un peu de temps et de souffle pour récupérer un peu de son pouvoir. Mais l'arrivée de ce personnage ne marque pas seulement un temps mort pour Elio, il est aussi intéressant parce qu'il va être le déclencheur de souvenirs pour le major. C'est très sympathique et ça permet de développer le passé de ce personnage, mais aussi de comprendre comment il en est arrivé à de telles extrémités. C'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce personnage venu aider Elio et ce qu'il a pu accomplir par le passé. Ce combat était très intéressant et prenant, en plus de nous proposer les codes classiques du shonen Neketsu. Mais ce n'est pas tout. Dans ce troisième tome, on a un deuxième front de combat qui se dévoile. Il n'est pas central, mais il est plaisant à lire et à découvrir, surtout que l'on va assister à un combat entre femmes. Un poil cliché sur certains passages, on apprécie tout de même le personnage d'Ornette qui est très dynamique. Elle va droit au but dans ce qu'elle dit et elle fait, en plus de promettre un développement intéressant. Elle va se battre aux abords de ce chantier et elle pourra compter sur Toaster comme soutien, ainsi que sur Minty comme spectatrice. Encore une fois, on a droit à un peu de développement, et on comprend certains liens, mais pour elle, beaucoup de mystères entourent encore son passé. Et elle prouve qu'elle peut faire preuve d'une grande force. Et puis on a un troisième groupe où se trouve Hope, et si elle nous en a mis plein les yeux dans le tome précédent, ici elle redevient celle qu'elle était, un peu neuneu, et c'est dommage parce qu'elle a un sacré potentiel. Mais ces moments permettent à Rose d'explorer le passé de Hope avec son pouvoir, on en découvre alors un peu plus sur leur histoire, sur cet univers avec leur pouvoir. Hope nous lâche des informations très intéressantes, notamment sur leur âge ou encore les connaissances de leur passé. Pas beaucoup d'action, mais de belles révélations. On a là un équilibre intéressant entre ces trois parties et le mangaka arrive à bien ménager son suspense. Quand il lâche une information, il nous relance dans un combat, il ne reste donc plus qu'à attendre la suite. Voilà, donc je rappelle que Wind Fighters est à retrouver avec pour le moment 3 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Entry de 164 et on reviendra juste après pour la chronique du volume 4 de Dear Cole.
遊ばせた視線はまだ雲の中みたいワンダー感じられるのはすごい先よフィーリングコイここでますます昼から都会後悔今からはみ出す感情の色君が当ててみろ ギリギリの鼓動の太陽溺れる体の未来月当たりは見当たらない君は耐えられない抱くのは恐怖希望を見えるのはどんな模様を信じたいという思い君にまたあるのか ガスに言わんます言葉が辛いなら瓶ます触れる空気の気流に滴ってかます覚えたのは不安違和感心から信じる感区別のつかない空間君は生きれるのか
jusqu'à 22h, Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Alors, c'était 0801 ni 209XX6, voilà, avec la chanson Kanojo Boshuchu at kodomo.ne.jp, voilà. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Dear Call. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action-aventure surnaturel qui a été écrit par Gunchi Kiri et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 4 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 4 tomes. Ce volume 4 est sorti le 5 janvier 2022 au prix de 6,90€. Le résumé de ce tome, Sanso et Ineto sont partis cueillir des herbes médicinales au pied du Mont Noir afin de sauver leurs camarades blessés dans l'explosion d'un black anima géant. Ils trouvent sans difficulté la plante en question, la lumilunaire, mais le père de Ineto vient jouer les troubles fêtes. Pourquoi Ineto a-t-il une valeur particulière aux yeux du peuple Allium? Nous voilà donc avec le 4e et dernier tome de la série Dear Call, et autant dire que cet ultime volume nous laisse sur notre faim. Je ne sais pas si l'auteur a dû finir sa série en urgence pour cause de manque de succès ou autre, mais on sent clairement que la fin est précipitée et que la série avait encore énormément de choses à nous raconter. On pensait effectivement que les 5 bêtes seraient invoquées et présentées, mais Moon et Ojun seront finalement les seuls à apparaître dans la série. Moon, qui aura d'ailleurs la part belle dans l'affrontement final puisqu'il sera également invoqué par Ineto dans le but de vaincre son père. Et ce combat sera lui aussi laissé en suspens puisque les 2 étudiants invocateurs seront sauvés in extremis par leur professeur Mexus, qui renverra le grand méchant dans son antre. Le Mont Noir est donc toujours bien en place, la bataille ne fait que commencer, et pourtant, c'est bel et bien la dernière page de la série Dear Call qu'on tourne en cette fin de volume. On nous propose donc une fin ouverte qui nous laisse nous-mêmes imaginer de quoi sera fait l'avenir de tous nos héros, en clôturant tout de même avec des révélations et réponses concernant certains personnages. C'est dommage parce que la série aurait vraiment mérité de pouvoir se développer sur un plus grand nombre de tomes. Voilà, donc je rappelle que la série Dear Call est à retrouver en 4 tomes, une série terminée donc avec ses 4 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Love ABC de 100 Says, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 8 de Parasite. Donc c'était Thousand Say avec la chanson Love ABC. On passe maintenant à la chronique du volume 8 de Parasite. la réédition 2020. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action-horreur-science-fiction qui a été écrit par Iwaki Itoshi et prépublié dans le Afternoon. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 10 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 10 tomes. Ce 8e et dernier volume de la réédition 2020 est paru quant à lui le 5 mai 2021 au prix de 10,75€. Donc le résumé de ce tome, avec ou sans Migi, Shinichi doit assurer sa survie. Redécouvrez la conclusion de Parasite dans ce dernier tome de l'édition originale. Donc voilà le dernier volume de cette courte mais non moins remarquable série. Dans ce tome, on retrouve bien évidemment la lutte épique contre le terrible Goto, qui n'a désormais plus rien d'humain, mais également un voyage au centre de la tête et du cœur de Shinichi. Migi a-t-il réellement disparu ? Comment gérer l'absence d'un être qui faisait littéralement partie de soi, tout parasite qu'il était, un être avec qui on a partagé tant de choses, de combats, qui nous a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Il y a donc beaucoup d'action dans ce tome, mais aussi beaucoup de réflexions et d'émotions. L'auteur tente même une approche philosophique sur le sens de la vie, l'évolution, l'humanité. Car même une fois les parasites disparus, la gratuité de la mort continue à frapper, certains humains étant aussi cruels et malsains que les parasites, qui eux, à leur décharge, lutter pour leur survie, à l'inverse de ce meurtrier qui poignarde sans raison un couple. On termine donc cette série en se posant des questions, mais triste aussi quelque part, la fin étant réellement touchante. On ferme ce volume en se disant que que Parasite c'est fini, qu'il n'y aura plus de nouveaux tomes aussi passionnants et enrichissants de cette série, et c'est vraiment dommage. Mais si vous ne pouvez pas vraiment vous en passer, vous pouvez toujours vous jeter sur les deux spin-offs qui sont disponibles aux éditions Glénat, pour profiter encore un peu de l'univers de Parasite. Voilà, donc je rappelle que Parasite est à retrouver en 10 tomes l'édition originale, mais également en 8 tomes pour la réédition qui est sortie en 2020. On va pouvoir s'écouter tout de suite Let Me Hear de Fear and Loathing in Las Vegas, qui a servi de premier opening pour l'anime Kiseiju Sei no Kakuritsu, et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine. You got to know now it's how we are dead just to be humans we are. Oh, we should obey the secret. Donc c'était Fear and Loathing in Las Vegas avec la chanson Let Me Hear qui a servi de premier opening pour l'anime Kiseiju Sei no Kakuritsu. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 4 janvier avec chez Delcourt en Cam, le volume 12 de A Fantasy Lazy Life, le volume 5 de Ayakashi Triangle, le volume 1 de Cheat Skill Level Up, le volume 8 de Hero Skill Achat en ligne, le volume 17 de Infection, le volume 3 du Bleu du Ciel dans ses yeux, le volume 2 de Nos mots comme des bulles et le volume 7 de Réincarner dans un autre monde. Aux éditions Mangetsu, on aura la sortie du volume 14 de Ao Ashi, le volume 4 de Coq de Baston et le volume 4 de The Ice Guy and the Cool Girl. Aux éditions Glénat, on aura la sortie du volume 2 de Banana Soul, le volume 0 de Blame, l'édition Deluxe, le volume 3 de Deep 3, le volume 11 de Mao, le volume 4 de Neon Genesis Evangelion, l'édition Deluxe. On aura également un coffret One Piece pour ranger vos volumes 24 à 32, donc pour l'arc Skypea. Donc c'est un coffret vide, hein. Si vous l'achetez, vous pourrez ranger tous vos tomes dedans, mais c'est un coffret qui est vide et qui coûte à peu près le prix d'un tome. Voilà. On aura ensuite la sortie du volume 7 de Shangri-La Frontière et le volume 22 de Tokyo Revengers. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de By the Grace of the Gods, le volume 17 de Iruma à l'école des démons, le volume 2 de Stellar Witch Lips et le volume 3 de À quoi tu joues Ayumu. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 5 de Criminel Fiançailles, le volume 5 de Komi Cherche ses mots, le volume 5 du Roi Démon et moi et nos 10 enfants, le volume 3 de Let's Kiss in Secret Tomorrow, qui sera le dernier tome de la série, le volume 16 de Stranger Case, et on aura également le volume 11 de Toilet Bond Anakokun, qui sortira en édition normale et en édition collector. Aux éditions Crunchyroll, on aura la sortie du volume 1 de Hokuto no Ken, la légende de Rao, et le volume 4 de Hokuto no Ken, l'édition extrême. On aura enfin, aux éditions Paquet, la sortie du volume 4 de La bicyclette rouge de la réédition 2022. On aura ensuite d'autres sorties pour jeudi 5 janvier avec chez Mana Books le volume 11 de Angels of Death, le volume 12 de Persona 4 et le volume 1 de Sakura Wars. Aux éditions Kiyun, on aura la sortie du volume 4 de Coco, l'île magique, le volume 25 de Darwin's Game, le volume 6 de Free Eren, le volume 18 de Jujutsu Kaisen, le volume 10 des Carnets de l'apothicaire qui sera disponible en édition normale et en édition collector, et le volume 1 de Soloist in a Cage. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 2 de Hentai Kamen The Abnormal Super Hero, le volume 5 de Sasaki et Miyano, les volumes 1 et 2 de Sounds of Life et le volume 2 de Vampires. Aux éditions Komiku, on aura la sortie du volume 32 du Chef de Nobunaga, le volume 2 de Magic Maker, le volume 1 de Quelle belle fin du monde, le volume 7 de Yako et Poco et le volume 2 de À toi d'être un héros. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 6 janvier avec Shekana, le volume 12 de Dead Demons Destruction qui sera le dernier tome de la série. On aura le volume 7 de Naruto de l'édition Hokage, le volume 13 de Un petit ami trop parfait qui sera le dernier tome de la série, et le volume 7 de Yu Yu Hakusho, l'édition Star. Aux éditions Atelier Akatombo, on aura la sortie du volume 1 de Fatal Fiancé, aux éditions Noevcraft, la sortie du volume 3 de Hotel Vionic, le volume 3 de Mobuko no Koi, et le volume 2 de Police in a Pod. Et enfin, aux éditions Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 7 de Manchuria Opium Squad, le volume 1 de Rebuild the World et le volume 4 de Tesla Note. Voilà, donc c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Dispute de 12012. Et on revient juste après pour la chronique du volume 41 de Berserk. We'll be right back.
かざせ天空飛行で飛ぶ海に怯えたる現実深く去り慣れ合う意味はない。 Just in the past though、
Donc c'était le groupe 12012 avec la chanson Dispute. On passe maintenant à la chronique du volume 41 de Berserk. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre aventure, fantastique, horreur, tragique qui a été écrit par Miura Kentaro, traduit par Anne-Sophie Thévenon et prépublié dans le Young Animal. La version japonaise est parue aux éditions Akusensha avec un total de 41 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 41 tomes. Ce volume 41 est sorti le 6 juillet 2022 au prix de 6,90€ pour la version classique, puisqu'une édition collector est également parue en grand format cartonné, et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la nudité et de la violence. Donc si vous avez manqué le début, Guts est un guerrier solitaire à l'épée démesurée. Marqué par un terrible passé, il parcourt le monde en semant la mort sur son passage. Un jour, il vient en aide à Puck, un elfe facétieux et volubile, qui décide de l'accompagner dans son voyage. Traqué par des forces obscures et terrifiantes qui ne lui laissent aucun répit, Guts tente de devenir maître de son destin pour regagner sa liberté et accomplir sa vengeance. Donc le résumé de ce tome 41, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Au terme d'un long périple grâce au rituel du roi des pétales virevoltants, Casca s'éveille enfin de son éternel cauchemar. Mais alors qu'elle retrouve enfin Guts, ses souvenirs atroces lui reviennent et elle pousse un hurlement de terreur. Pendant ce temps, l'armée impériale de Griffith, bâtie autour de la nouvelle troupe du Faucon, fait son grand retour dans la capitale. La paix aurait dû s'installer un instant, mais guidée par le destin de l'île, les ténèbres et la lumière se croisent de nouveau. Il ne me restait qu'une vague impression de solitude qui, à son tour, disparaissait aussitôt, en même temps qu'une larme comme la rosée du matin. Des mots presque prophétiques quand on sait qu'il s'agit de la toute dernière phrase de Berserk publiée du vivant de Kentaro Miura. Ces mots, prononcés par Griffith dans les toutes dernières pages de ce 41e volume, pourraient tout à fait coller au sentiment que nombre de fans pourront avoir en refermant le présent opus. Un sentiment de solitude, une envie de verser quelques larmes en songeant au fait que, cette fois-ci, nous voici bel et bien devant les toutes dernières planches ancrées par le regretté mangaka qui nous laisse un peu orphelins. Voilà déjà plus d'un an, précisément le 6 mai 2021, que l'auteur nous a quittés à seulement 54 ans, en laissant derrière lui des proches et des millions de fans éplorés à travers le monde. Les hommages se sont multipliés pour saluer l'auteur d'un des principaux monuments de Dark Fantasy de ces 30 dernières années, tandis que l'avenir des aventures de Guts devenait forcément incertain. Mais si Monsieur Miura n'est plus parmi nous, son œuvre, elle, sera éternelle et se poursuivra finalement en ayant été confiée entre deux bonnes mains. Après bien des débats, on a effectivement pu apprendre la reprise au Japon de Berserk depuis le 24 juin 2022, avec Odyssin, le studio Gaga, qui n'est autre que le studio collectif créé par Miura il y a quelques années, et à la supervision Koji Mori, mangaka bien connu chez nous pour les séries Suicide Island, paru chez Kazemanga, et plus récemment Genesis, paru aux éditions Vega Dupuis. Notons que le choix de Koji Mori pour poursuivre l'histoire est le plus logique, le plus évident, le plus symbolique aussi. Cela fait plus de 35 ans depuis l'époque du lycée que l'auteur était un ami très proche de Kentaro Miura, à tel point que celui-ci lui a souvent demandé conseil pour Berserk et qu'il en est même le seul à qui le regretté mangaka a confié toutes les grandes lignes de sa série de Dark Fantasy culte jusqu'à la conclusion. Le fil directeur de l'équipe éditoriale et de Koji Mori sera donc évident, poursuivre Berserk en restant le plus fidèle possible à ce que Kentaro Miura voulait en faire. Berserk a donc encore de l'avenir. Si ce 41e volume s'achève sur des mots de Griffith, il s'ouvre également auprès du Faucon, en pleine réunion militaire au sujet de Falconia. L'occasion pour Femto d'affirmer encore un peu plus sa position, en négociant avec charisme et fermeté avec son entourage, en appuyant une proposition de la princesse Charlotte, avec qui sa relation reste intense, en montrant encore des facettes humanistes alors même que l'on connaît bien son parcours et ce qu'il a pu faire pour en arriver là. Griffith reste assurément un personnage dont l'ambiguïté permanente fascine, et plus encore quand son parcours est mis en parallèle à celui de Guts, toujours un peu dans l'ombre et avide de revanche, envers celui qui l'a trahi et qui attire à lui toute la lumière. Une étape importante a pourtant été franchie par le groupe de notre héros dans le précédent volume, qui sonnait comme une véritable charnière avec un événement si longtemps attendu, si longtemps espéré depuis de très très nombreux chapitres. À Elfhelm, au bout du rituel des rêves où Shirk et Farnes ont pu l'accompagner tout au fond de son monde intérieur, Casca a enfin retrouvé la raison en sortant de son interminable cauchemar. Cela aurait pu être un événement purement heureux, mais le dit cauchemar peut-il vraiment s'achever en un rien de temps? En effet, en se retrouvant enfin consciente face à Guts, face à celui qu'elle a tant aimé et qu'il aime tant, Casca a poussé un cri glaçant. L'heure des vraies retrouvailles avec Guts devra encore attendre. Il reste encore de nombreuses blessures, des traumatismes profonds que la jeune femme doit parvenir à surpasser, ce qui ne sera pas chose aisée, comme nous le montreront certains instants de ce tome où ses démons se rappelleront à sa mémoire à la moindre occasion. Jusqu'au bout, Kentaro Miura aura eu le mérite de ne jamais tomber dans la facilité, de ne pas régler en un rien de temps toute l'ampleur de l'horreur que Casca a dû subir il y a tant de volumes, il y a tant de temps. Et face à elle, il y a un Guts soucieux de ne pas brusquer sa compagne, et préférant alors rester encore dans l'ombre le temps qu'il faudra. Le retour à la raison de Casca n'est donc qu'une étape, certes essentielle, attendue et espérée, mais qui ne règle pas tout pour autant. Et dès lors, il convient de reposer petit à petit les choses autour des principales figures suite à cet événement. On passera outre les quelques nouvelles petites bouffonneries d'Isidro et de Puck qui ne sont pas toujours bien intégrées, pour plutôt s'intéresser au reste. Une Casca devant retrouver ses sensations de bretteuse et essayer de guérir peu à peu de ses blessures. Une Farnes s'interrogeant sur son rôle à ses côtés et sur son utilité et voulant dès lors améliorer son apprentissage. Une Shirk avançant encore un peu plus dans son statut de sorcière accomplie et questionnant sa relation avec sa mentor Flora. Et ayant le sentiment d'avoir retrouvé un endroit où on l'accepte tel qu'elle est. Ainsi qu'un Guts retrouvant sur sa route Skull Knight pour des conséquences assez symboliques. Le tome est en réalité assez calme, mais n'en est donc pas moins captivant, tant les personnages y restent soigneusement travaillés, le défunt mangaka n'ayant rien négligé jusqu'à la fin. Et puis il semble difficile de ne pas ressortir ému de cet ultime volume conçu par Kentaro Miura en personne, un sentiment à part étant bel et bien là, jusque dans ses toutes dernières planches, cette toute dernière phrase. Berserk se poursuivra désormais sans son papa, mais n'est pas orphelin, en ayant normalement été confié entre les meilleures mains possibles. Souhaitons donc le plus bel avenir à l'une des plus grandes sagas de Dark Fantasy de ces dernières décennies, tout en n'oubliant jamais celui qui lui a donné naissance. Voilà, donc je rappelle que la série Berserk est à retrouver avec pour le moment 41 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Sacrifice de 9mm Parabellum Bullet, qui a servi de premier opening pour l'anime Berserk, la version 2017. Et on reviendra juste après pour parler du manga Duranki. Donc c'était 9mm Parabellum Bullet avec la chanson Sacrifice qui a servi de premier opening pour l'anime Berserk, la version 2017. On passe maintenant à la présentation du manga Duranki. Donc c'est un seinen de genre action, aventure, drame, mystère qui a été écrit par Studio Gaga à partir du concept original de Miura Kentaro et prépublié dans le Young Animal Zero. La version japonaise est parue en 2019 aux éditions Akushensha avec un total de 1 volume qui termine la série. Et ce one-shot est paru le 6 juillet 2022 aux éditions Glénat. Donc vous pourrez retrouver Duranki dans le commerce au prix de 7,60€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus. La série est pour public averti à cause de la nudité. Et il n'existe pas d'adaptation en animé. Le résumé de cette série, en des temps immémoriaux où les dieux vivaient encore à la surface, un mystérieux enfant né sans sexe est recueilli par le vieux Utanapishtim et sa femme sur le mont Nizir, terre sacrée protégée par les dieux où se déposa l'arche après le grand déluge. L'enfant nommé Usumgal, accompagné du dieu Pan, vont alors partir découvrir le monde, rencontrer les hommes et les divinités pour comprendre la véritable nature d'Usumgal et sa destinée. Donc à savoir sur cette série, parallèlement à Berserk, Kentaro Miura s'était lancé dans un nouveau projet, créer un nouvel univers fantasy qui serait dessiné par les artistes qui l'assistent au quotidien, à savoir le studio Gaga. C'est ainsi qu'est né Duranki, racontant les aventures trépidantes d'Usumgal, mi-dieu et mi-humain, mi-homme et mi-femme, qui grandit et chasse aux côtés de ses amis humains. Suite au décès de Miura, la série a été arrêtée et ne connaîtra donc pas de fin. Cependant, ce tome inachevé contient le scénario d'origine écrit par Miura, ainsi que toutes les esquisses et documents préparatoires. De précieux documents qui permettront au lecteur de se plonger dans le processus créatif du grand maître. Voilà, donc je rappelle que le one-shot d'Oranki est à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Loveless du groupe A Anonymous Confederate Ensemble. Et on viendra juste après pour la présentation du manga Dragon Ball SD. Donc c'était Loveless du groupe A Anonymous Confederate Ensemble. On passe maintenant à la présentation du manga Dragon Ball SD. Donc c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, fantasy, science-fiction qui a été écrit par Oishi Nao à partir de l'œuvre originale de Toriyama Akira et prépublié dans le Saikyo Jump. La version japonaise est parue en 2010 aux éditions Shueisha avec un total de 8 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 25 novembre 2015 aux éditions Glénat, dans leur collection Kids, avec également 8 tomes. Vous pourrez retrouver Dragon Ball SD dans le commerce pour un prix de 7,60€. L'âge conseillé pour le lire est de 10 ans et plus. Il n'existe pas d'adaptation en animé, mais il existe un manga à l'origine de ce remake, Dragon Ball, qui est terminé en 42 tomes et qui est paru aux éditions Glénat. Donc le résumé de cette série, non, il ne s'agit pas d'une nouvelle version de plus pour Dragon Ball. Le titre qui vous est présenté ici est une relecture et recréation du mythique manga de Toriyama. Le scénario a ainsi été revu, les quelques éléments humoristiques adultes ont été modifiés, et l'aventure connaît par ailleurs des rebondissements inédits et inattendus. À ce titre, de nouveaux personnages font leur apparition, tels Beerus que l'on a découvert dans le film Battle of Gods. Une redécouverte complète pour un nouvel accès au monde de Toriyama. L'utilisation du SD pour Super Déforme, donc Super Déformé, permet de réintroduire chaque personnage par un avatar humoristique, ainsi qu'instaurer un ton pour le très jeune lectorat auquel il est destiné. Le SD a ainsi ce talent de transformer tout personnage en mini-moi sympathique. Proposé entièrement en couleur, le titre a ainsi tout pour plaire aux jeunes et introduire avec aisance l'univers de Dragon Ball, ses personnages et ses enjeux. Adoubé par Akira Toriyama, lui-même, Oishi Nao en charge de ce titre, développe avec beaucoup de respect l'univers de l'auteur, tout en apportant son indéniable talent pour faire des SD. Voilà, donc Dragon Ball SD est à retrouver avec pour le moment 8 tomes parus aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Hydrangea de A Crowd of Rebellion, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec la présentation du manga Dragon Ball Super.
Yeah!
Donc c'était A Crowd of Rebellion avec la chanson Hydrangea. On passe maintenant à la présentation du manga Dragon Ball Super. Donc c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, fantasy qui a été écrit par Toriyama Akira, dessiné par Toyotaro et prépublié dans le V-Jump. La version japonaise est parue en 2015 aux éditions Shueisha avec 19 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 5 avril 2017 aux éditions Glénat avec pour le moment 18 tomes. Vous pourrez retrouver Dragon Ball Super dans le commerce au prix de 6,90€. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus et il existe une adaptation en animé composée de 131 épisodes de 23 minutes qui ont été diffusés du 5 juillet 2015 au 25 mars 2018 et qui sont disponibles en DVD Blu-ray chez AB Vidéo. On a également un préquel en manga, Dragon Ball, qui est disponible en 42 tomes aux éditions Glénat. Un spin-off en manga, Dragon Ball Z Fukatsu no F, qui est terminé en 3 chapitres au Japon. Ainsi que 3 jeux vidéo, Dragon Ball Z Dokkan Battle, qui est disponible sur Android depuis le 12 juillet 2015. Dragon Ball FighterZ, qui est sorti le 26 janvier 2018 sur PlayStation 4. Et on a également Dragon Ball Xenoverse 2, qui est sorti le 28 octobre 2016 sur PlayStation 4. Donc le résumé de cette série, Dragon Ball Super se passe après la défaite de Majin Buu. Le dieu de la destruction Beerus vient de se réveiller d'un sommeil de plus de 30 ans et décide de chercher le Super Saiyan divin suite à un rêve prémonitoire. Nos héros sont sur le point de faire face à une nouvelle menace. Voilà, donc du coup c'est ce qui va terminer cette émission. On va pouvoir s'écouter donc pour clôturer tout ça. Le premier opening de l'animé Dragon Ball Super, c'est Chozetsu Dynamic de Yushi Kazuya. En attendant, vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour une nouvelle émission de Cordellement Geek. Sinon, ça sera lundi prochain, comme d'habitude, de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, encore une fois, une bonne année et à bientôt! Bye.